Et salut les enfants. Oh, ils sont pas là, ils sont partis, mince. Ça va? Les enfants? Ouh! Je suis content de vous voir. Eh oh! Il y en a que je n'avais pas vu depuis longtemps avec les vacances. Hein. Vous en avez bien profité là. C'est bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de la puissance de la prière. Ça vous intéresse les enfants? Ouais, ils sont motivés. Ils sont adolescents à 5 ans maintenant. Alors, donc c'est... J'aimerais juste lire un verset avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 11 et au verset 24. L'évangile de Marc. Vous lisez la Bible, les enfants, un peu, oui? Oui, alors là, ils vont encore moins répondre. Bah, si je posais la question aux parents, ce serait peut-être aussi catastrophique. L'évangile de Marc, c'est un des quatre évangiles. Il y a quatre personnes qui ont écrit l'histoire de Jésus. Et Marc, c'est le deuxième dans l'ordre hein, des livres dans le Nouveau Testament. Et Marc, il nous rapporte une parole. C'est pas Marc qui nous dit, il nous rapporte une parole de Jésus. C'est Jésus qui nous dit cela. Ce matin, on va entendre des paroles de Jésus qui vont nous enseigner, nous exhorter, nous encourager pour le domaine de la prière. Et donc ce premier texte, c'est pourquoi je vous le dis, écoutez bien les enfants, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Génial. Seigneur, je veux la dernière PlayStation. C'est à ça que vous avez pensé, allez, mentez pas. Évidemment, il faut lire l'ensemble des Écritures et les versets comme ça. Il y en a d'autres où il est précisé que c'est ce que nous demandons en son nom et selon sa volonté. Hein, on ne demande pas n'importe quoi au Seigneur, bien sûr. Ce n'est pas un distributeur automatique de bénédiction, comme certains le croient parfois. Hein. J'aimerais, en introduction de ce moment, vous donner trois témoignages. Trois témoignages qui montrent que la prière, ça marche. Et j'en ai pris que trois. Si je devais vous donner tous les exemples que j'ai dans ma vie, déjà, je suis sûr que j'en ai oublié. Pardon, pardon, Seigneur. Il y en a tellement. Mais je voudrais reprendre trois témoignages. Le premier témoignage, il concerne un déménagement. C'est un jour, une petite fille qui vit dans sa famille. Ils viennent d'aménager dans une maison qu'ils louent. Et cette petite fille, elle trouve que cette maison, elle est super. Et elle voudrait que ses parents l'achètent. Parce que ses parents, depuis un temps, ils disent, on va arrêter de louer, il faudrait qu'on achète une maison. Mais eux, cette maison, c'est pas trop leur objectif. Mais la petite fille, elle veut vivre dans cette maison. Et un jour, qu'elle a entendu les parents, moi j'ai vendu la mèche, hein, ça s'est passé chez moi en fait. C'est ma fille aînée, il s'agit de ma fille aînée. Et en fait, alors qu'on discutait à table et on disait non, mais on n'achètera pas cette maison, c'est trop compliqué, c'était des maisons mitoyennes. Il y a les voisins qui avaient un chien qui aboyait à 6h du matin et eux, ils faisaient du bruit jusqu'à minuit, 1h du matin. Vous voyez ce qu'il nous restait pour dormir. Hein, et donc on disait non, on ne va pas acheter ici, ce n'est pas possible, etc. Et puis un soir, notre fille, elle fait cette prière. Elle dit Seigneur, s'il te plaît, fais que les voisins y déménagent. Elle avait compris comment on pourrait avoir envie d'acheter la maison. Elle avait quel âge? 8 ans, par là? Dans ces eaux-là. Et nous, on a... Bon, les parents, quand on entend nos enfants prier comme ça, on a un petit sourire, on rigole. 15 jours après, on entend un bruit de camion. Sous notre fenêtre, on ouvre la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Un camion de déménagement. Notre voisin déménage. C'est pas beau ça? C'est un enfant qui a prié avec son cœur. Et cette maison, on l'a achetée après, hein, pour l'histoire. Les enfants, vous pouvez demander des choses à Dieu. Même des choses qui peuvent paraître insignifiantes, si c'est sur votre cœur et que Dieu est d'accord, vous allez voir des grandes choses se passer. Un deuxième témoignage qui m'est arrivé pendant plusieurs années, j'ai encadré des camps d'ados. l'été. Et je me souviens d'un témoignage extraordinaire. On faisait des camps itinérants, c'était arrêté dans un camping, dans l'Aveyron, dans un beau coin de l'Aveyron, au bord d'un lac. C'était un cadre magnifique. Puis on nous avait prêté une salle où on avait fait un partage avec les ados. Et c'était sur la parabole du fils prodigue. Et je leur avais donné des petites consignes. Et ils devaient chacun nous présenter la parabole sous forme de sketch. Alors vous savez, c'est convivial ça. On se dit, bon, c'est marrant, il faut de temps en temps faire des réunions différentes pour les ados, que ce ne soit pas toujours pareil. Sauf que le Saint-Esprit, il s'en moque de la forme. Hein. Et malgré que c'était plutôt une forme ludique, quand ils ont fini les sketchs, tout ça, on a commencé à ouvrir la Bible. J'ai commencé à leur parler au travers de cette parabole de la notion de pardon entre parents et enfants. Alors que j'étais en train de prêcher, je n'avais même pas fini de prêcher. Ils commençaient tous à se mettre à pleurer, certains à tomber à genoux et à demander pardon à Dieu pour les relations qu'ils avaient avec leurs parents. C'était extraordinaire, une action du Saint-Esprit extraordinaire. Et à la fin de la réunion, avec les animateurs, on a pris des ados en particulier pour parler avec eux, qui nous parlent de leurs problématiques. Vous savez, à l'adolescence, la relation avec les parents, ce n'est pas toujours facile. Et je me souviens d'une jeune fille qui s'appelait Julie et qui me dit « Moi, mon père ne m'aime pas. » Ses parents étaient séparés, elle vivait chez sa mère et son père prenait rarement des nouvelles. Elle avait l'impression qu'il ne s'intéressait pas à elle. Donc moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, les hommes, on ne fonctionne pas comme les femmes. Et ce n'est pas parce qu'il ne te dit pas qu'il t'aime, ce n'est pas parce qu'il ne te prend pas des nouvelles, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. J'essayais de la consoler comme je pouvais. Mais je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va prier. On a prié ensemble. Elle a dit, Seigneur, touche le cœur du papa de Julie. Touche son cœur. Et puis donne à Julie... de le pardonner, de l'aimer comme il est. On a fait cette prière et on s'est arrêté. Le lendemain matin, la voiture de ravitaillement arrive et avec le ravitaillement, le courrier. Et dans le courrier, une lettre du papa de Julie. Ça ne lui était jamais arrivé. Et ça veut dire que même alors qu'on priait, Dieu avait déjà exaucé. Dieu avait déjà exaucé. Vous vous rendez compte comme il est trop fort, le Seigneur ? Il est trop fort. Ça m'avait vraiment bouleversé. Et cette jeune fille, là, elle a dit, alors là, oui, Dieu, il est fort. Vous ne pouvez pas dire autre chose. Hein. Puis un dernier témoignage, lorsque j'étais pasteur dans l'Aveyron, une jeune femme qui était d'origine angolaise m'a présenté à une de ses amies qui ne venait pas à l'église. Elle m'a dit, mais il faut que tu viennes parler avec elle. Elle a besoin de Dieu, cette femme. Je dis, écoute, si elle est d'accord de voir un pasteur, moi j'arrive, il n'y a pas de souci. On ne demande que ça, nous, hein. Et puis elle dit « Ok, je suis d'accord de recevoir le pasteur ». Puis on parle, elle me parle de ses relations de couple qui sont très difficiles. Son mari était parti au Portugal pour ses papiers, puisque comme vous savez, en Angola, la langue c'est le portugais, c'est une ancienne colonie portugaise, donc ils ont besoin pour les papiers de se rendre au Portugal. Et elle me dit « Mais c'est terrible, de toute façon, mon mari est très dur ». Enfin, elle a commencé à faire toute la liste de tout ce qu'elle se plaignait de son mari. Et moi, le Saint-Esprit m'a poussé à lui dire quelque chose. Ce n'est pas évident, hein, des fois. Hein. Quand le Saint-Esprit vous dit de le dire, je dis, mais je le dis ou je ne le dis pas, parce qu'elle risque de mal le prendre. Mais vraiment, j'ai été poussé. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous vous plaignez de votre mari. Moi, je vais vous poser juste une question. Est-ce qu'avant de vous marier avec lui, de vous mettre avec lui, je ne sais plus si j'étais marié, bon, peu importe, est-ce que vous avez demandé à Dieu son approbation? Est-ce que vous avez mis Dieu dans l'affaire? Elle me regarde. Elle me dit non. Je dis, alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez demander pardon à Dieu pour ça. Et vous allez lui dire, Seigneur, mais malgré que je ne t'ai pas mis dans l'affaire, je veux croire que maintenant tu peux bénir mon couple. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas bien fonctionné au départ que Dieu ne veut pas vous bénir quand même. Mais il faut que vous ayez un cœur repentant. Elle l'a fait, devant moi elle l'a fait. J'ai fait, merci Seigneur, parce qu'elle aurait pu dire, il se prend pour qui, comment il me parle et tout ça. Et le Saint-Esprit était là. Et on a fait cette prière. Et le lendemain, je lui ai dit, écoutez, demain, je me souviens, le lendemain, c'était le 8 mai. On avait prévu d'aller pique-niquer ensemble avec les chrétiens de l'église. Et je lui ai dit, écoutez, demain, si vous voulez, je passe vous prendre. Et je vous amène, on va pique-niquer avec les frères et sœurs de l'église. Elle me dit, ok, d'accord. Le lendemain, je la prends dans la voiture. On commence à avancer. Elle me dit, pasteur, vous savez ce qui s'est passé? Je dis, non. Elle me dit, mon mari m'a téléphoné du Portugal pour me demander pardon. Amen. Là, je suis resté, j'ai dit... Et je vous assure, je vous raconte 3 témoignages. Je pourrais vous en raconter des milliers. Le Seigneur est puissant. La prière, les enfants, c'est puissant, c'est efficace. Croyez que quand vous priez, les adultes aussi, il se passe quelque chose. Amen. Et j'aimerais vous dire à l'Église tout entière, les enfants, les ados, les jeunes, les adultes, les seniors, j'ai vraiment à cœur dans ce début d'année qu'on revienne... C'est bizarre, ça tombe en même temps que la Coupe du Monde de rugby. Vous savez ce qu'ils disent les rugbymen quand ça commence à parler dans l'équipe? Ils disent, oh, il faut revenir aux fondamentaux. La mêlée, la touche, la défense. Ah, les rugbymen, ils savent de quoi je parle. Les fondamentaux. Et ce que le Seigneur me met sur le cœur, vraiment, c'est qu'en tant qu'Église, on doit revenir aux fondamentaux. On vit dans une époque moderne où on fait toutes sortes de choses dans les églises. Mais il faut pas... Moi, je suis contre rien. Mais je ne veux pas oublier les fondamentaux. Et un des fondamentaux de l'église, c'est la prière. Mes frères et sœurs, s'il n'y a pas la prière, on peut arrêter tout ce qu'on fait. Ça ne sert à rien. La prière, ça commence, et je vous le dis toujours, la prière, ça commence chez soi, individuellement. Quelqu'un qui vient aux réunions de prière de l'église qui ne prie jamais chez lui, ça vaut rien. Excusez-moi d'être aussi dur, hein. Ça vaut rien. Le premier endroit où Dieu nous attend, c'est chez nous, dans l'intimité. Ok ? J'aimerais voir 3 points, et j'en ai pris que 3, hein, parce que si je vous dis 3 effets puissants de la prière, il n'y en a pas que 3, hein, mais on va avoir que 3 ce matin. Le premier effet... C'est que le fait de prier établit une connexion entre nous et le ciel. Vous êtes conscients de ça? Est-ce que vous réalisez, les enfants, les adultes, qu'on peut parler avec Dieu? Waouh! Ça vous impressionne même pas. C'est ça qui est grave. Hein, on peut parler avec Dieu. Vous savez... Le film Les Visiteurs, j'aimerais bien que ça marche de temps en temps pour vous envoyer à l'époque de l'ancienne alliance. Et quand je dirais « on peut parler à Dieu », vous feriez tous « waouh !» Ouais, je vous le dis. Hein. On peut parler à Dieu quand on veut, à n'importe quel endroit, n'importe quel moment. On a cette intimité avec lui, c'est extraordinaire, non? Et pourtant, on n'en profite pas. On oublie Dieu, on oublie les rendez-vous qu'il nous donne. Et je me mets dans le lot, je peux mieux faire. Matthieu 6:6, vous le connaissez par cœur? Toujours pas, c'est pas grave. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a un petit problème. Bon. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Ah, il y a des phrases en trop là. Ça va, vous comprenez? Entre dans ta chambre, ferme la porte, c'est-à-dire qu'il y a un moment. Parce que j'entends des gens qui disent « Oh, mais moi, pasteur, je suis toujours en connexion avec Dieu. Hein. » Alléluia. Mais vous savez, Dieu, il aime bien qu'à un moment donné, il y ait un moment juste pour lui. Pas « je pense à lui pendant que je conduis, je pense à lui pendant que je prends ma douche, pendant que je fais mon ménage. » Mais faites-le, hein, continuez. Hein. Mais Dieu, il attend quand même plus. Il attend que vous ayez un moment d'intimité rien que pour lui. Rien que pour lui. Est-ce qu'il ne mérite pas le Seigneur? Un moment rien que pour lui. Après, je vous laisse déterminer la durée, etc. Ça, il n'y a pas de loi là-dessus. Mais veillez à cette intimité avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça que vous serez en connexion avec le ciel. On n'est pas en connexion avec le ciel juste parce qu'on vient le dimanche matin et qu'on fait « Oh, alléluia !» Oui, ça fait partie. Mais s'il n'y a que ça, encore une fois, c'est du vent. La connexion, c'est dans le lieu secret. C'est là que Dieu va me transformer. C'est là que Dieu va changer fondamentalement mon caractère, mon état d'esprit, ma manière d'être. Amen. Et c'est ça qui est puissant dans la prière. La prière de communion avec Dieu, c'est puissant parce que ça nous change. Faites-le et vous verrez les gens autour de vous dire « Wow, t'es plus pareil, toi !» Dans le bon sens, hein. T'es plus pareil, toi. Et oui, parce que vous commencez à refléter Christ. Parce que vous passez du temps avec lui en face à face. C'est l'apôtre Paul qui dit, hein, on se reflète comme dans un miroir et on est transformé de gloire en gloire. Amen. Si vous connaissez un autre moyen d'être transformé de gloire en gloire, alors là, je vais rigoler. Hein. Parce qu'il n'y en a qu'un seul moyen d'être transformé de gloire en gloire. C'est le face-à-face avec Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Aucun être humain peut être glorieux. Je vous assure. Deuxième effet puissant de la prière. La prière nous unit. La prière crée l'unité. Quand des gens prient ensemble, ça les soude, ça les unit. Amen. Pour ça que c'est un des fondamentaux de l'Église. Si on veut vivre dans l'unité, il faut qu'on prie ensemble. Amen. Matthieu 18, 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Vous voyez, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Vous croyez que le Seigneur, il aime quand les chrétiens se réunissent pour prier ensemble? Là, ils se disent, je ne vais pas répondre parce que... Les enfants, on va faire un jeu. Vous allez vous boucher les oreilles et vous allez me faire signe quand est-ce que vous ne m'entendez plus. Bouchez-vous les oreilles, fort, fort, fort. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi avec la tête si vous m'entendez. Vous faites oui ou non? Vous m'entendez? Allez, bouge-toi les oreilles, hein, parce que là, si tu m'entends, c'est que tu ne te bouges pas les oreilles. C'était juste pour dire aux parents, si on veut remettre les fondamentaux, il y a une réunion de prière le mardi soir. On doit prier ensemble, mes frères et sœurs. Je ne cherche pas à faire du nombre, mais je sais que c'est ça qui fait avancer l'Église. Bien sûr, si d'abord, il y a la prière chez vous. Hein. Mais si vous pouvez venir, vous pouvez avoir une impossibilité, je ne suis pas inconscient de ça, bien sûr. Mais il faut venir le mardi soir. Venez régulièrement. On n'est pas là pour compter les points. Il y a des fois où vous ne pouvez pas venir, ce n'est pas grave. Mais venez de temps en temps, venez. Il faut qu'on prie ensemble, mes frères et sœurs. Ça va nous souder, ça va nous unir et ça va avoir une grande efficacité dans les lieux célestes. On doit prier ensemble. On ne peut pas faire cette économie. Voilà, vous pouvez déboucher vos oreilles. Bon, je sais qu'ils m'ont écouté quand même, mais ce n'est pas grave. Parfois, c'est les enfants qui motivent les parents. C'est les enfants qui disent aux parents, moi je veux aller prier, je veux aller à l'église. Et les parents, oh, je suis fatigué. Merci les enfants, motivez vos parents. Hein. Si un jour on vous entend, vos parents, je ne sais pas si je vais au culte demain. Quoi? On va au culte, t'as compris? C'est la seule fois où je vous autorise à parler comme ça à vos parents. La prière nous unit. Et quand les... Vous savez, c'est une armée qui est dispersée. Est-ce qu'elle a des chances de gagner un combat? Non. Une armée qui est unie, ça fait trembler l'ennemi. Ça fait trembler l'ennemi. Amen. Ressaisissons-nous, mes frères et sœurs. Ressaisissons-nous. J'ai connu une époque où les pasteurs n'avaient pas besoin de dire ça à l'église. Les gens, il y avait autant de monde à la prière qu'au culte. J'ai connu cette époque, j'étais enfant. Moi, j'étais enfant, je me rappelle, les chrétiens se mettaient à genoux pour prier. On avait des coussins. Il y avait des coussins, on se mettait à genoux. Alors nous, les enfants, on mettait le coussin sur la chaise et on dormait au bout d'un moment. Mais on était avec nos parents, hein, on avait école le lendemain et tout. C'était vraiment une autre époque. Moi, j'aime quand les parents me disent « Je ne peux pas venir parce que mon enfant, il a école le lendemain. » Et puis son enfant... Il est avec son téléphone portable jusqu'à 11h, minuit. Bon, bref. Et puis pendant les vacances, on devrait voir tous les parents, puisque le lendemain, il n'y a pas école. Amen. Troisième effet puissant de la prière, c'est son efficacité. La prière, c'est efficace. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, écoutez bien les enfants, écoutez bien ce que nous a dit Jésus. Vous ouvrez bien vos oreilles cette fois-ci. Débouchez vos oreilles, écoutez bien. Écoutez bien, vous allez voir, ce n'est pas extraordinaire. Voici les signes, c'est-à-dire les miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire pas les adultes, pas les pasteurs. Tous ceux qui auront cru. Donc si tu es un enfant et que tu crois, tu es concerné. Si tu crois en Dieu, tu es concerné. Regarde ce qui est dit. En mon nom, ils pourront chasser les démons. Bon, pas un enfant quand même. Oui, vous croyez ça? Mais un enfant rempli du Saint-Esprit peut chasser un démon. Hein. Ils pourront parler de nouvelles langues. Quoi? Les enfants baptisés du Saint-Esprit qui parlent des nouvelles langues? Mais non, il faut attendre qu'ils soient adultes. Mais non, c'est pour les enfants aussi. Ouais? Et pour les adultes aussi. Hein. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Ils attraperont des serpents. Wow! Ça, c'est pour ma femme, pour qu'elle soit motivée. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Amen. Une protection surnaturelle de Dieu. Et ils imposeront les mains aux malades, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Amen. On est appelé à vivre des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. On est appelé à vivre le surnaturel de Dieu. Et trop souvent, on a des vies qui sont bien linéaires. Tout est bien programmé. Il ne faut pas toucher à quelque chose. Il ne faut pas que ça tourne à droite d'un centimètre ou à gauche d'un centimètre. C'est programmé, c'est comme ça. Et après, on dit, mais je ne vis pas les miracles, je ne vis pas... Bah oui, c'est sûr. Eh, abandonne un peu aux mains du Seigneur. Jette-toi à l'eau, fais des choses que tu n'as jamais fait. Mets Dieu à l'épreuve par ton attitude. J'aime pas trop le mot « mets Dieu à l'épreuve », mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et Dieu va vous montrer qui il est. Amen. Dieu va vous montrer qui il est. Moi, je ne veux pas d'une vie linéaire. Ma chère, oui, hein, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, ma chère, elle a dit non, hein, direct. Hein. Elle a dit « non, pas question ». Et aujourd'hui, je bénis Dieu de toutes les expériences que j'ai vécues extraordinaires du fait d'avoir abandonné cette vie linéaire, un bon travail, une sécurité, tout ce qu'il fallait, une bonne église, un bon service dans l'église, tout était bien et sous toute couture, je disais « Oh, Luc, il est ceci, oh, Luc, il s'occupe des jeunes, oh, Luc, machin, tout. » Eh bien non, le Seigneur, il a mis un grand coup de balai là-dedans. Et je rends grâce à Dieu. Vous savez, je compare toujours, je dis toujours qu'il y aurait dû y avoir un 13e disciple. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Vous savez qui aurait dû être le 13e disciple? Qui aurait dû être le 13e disciple? Le jeune homme riche. Jésus lui a dit la même chose qu'aux autres apôtres. Il lui a dit, viens, donne tes biens aux pauvres, etc. Et viens et suis-moi. Et il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a connu tout ce que les apôtres ont connu en côtoyant Jésus? Vous imaginez ce qu'ils ont vécu, les apôtres, à côté de Jésus? Mais un truc de fou. Hein, un truc de fou. Et le jeune homme riche, il est passé à côté. Et moi, je ne veux pas passer à côté. Je veux être à côté de Jésus. Et je veux vivre le surnaturel avec lui. Amen. Je veux voir l'efficacité de la prière, les signes, les miracles. Amen. Dans Jacques 5, 16, il est dit ceci, « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Vous le croyez, mes frères et sœurs, ou pas? Il y a eu deux amen. On est une église bouillante pour le Seigneur. Amen. Je sais que les Columérins, c'est intérieur chez eux, donc je ne me fais pas de soucis. Je conclue ces moments avec la lecture d'un texte qu'on a partagé avec les frères et sœurs à l'île Jourdain vendredi soir. Ça concerne Moïse, Josué, et puis deux collaborateurs de Moïse qui s'appellent Aaron et Hur. Voici ce qu'il est dit. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Alors pour les enfants, Amalek c'était un peuple qui était ennemi d'Israël. Et puis vous savez, vous le voyez à la télé, malheureusement il y a des guerres dans le monde. Et là à ce moment-là, il y avait une guerre entre Israël et Amalek, il fallait aller combattre. Et Josué, eh bien, il est chargé par Moïse d'aller combattre, de choisir des hommes à les combattre. Et il lui dit, « Moi je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Écoutez bien les enfants. Lorsque Moïse élevait sa main, c'est Israël qui était plus fort. Il gagnait. Dès que Moïse baissait sa main, ça veut dire qu'il arrêtait de prier. C'était Amalek qui était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ses amis prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que quand on parle de la prière comme un des fondamentaux, c'est d'une logique implacable. Parce que la Bible nous dit que le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Donc si le combat est spirituel et que je me présente avec des choses charnelles, est-ce que j'ai des chances que quelque chose se passe ? Absolument pas. Si pour un combat spirituel, je me présente dans la prière, alors je suis au bon endroit. Je fais ce que je dois faire. Ok ? Le combat est spirituel. On voit clairement dans cette histoire qu'il y a deux endroits, deux niveaux. Il y a la vallée où les hommes combattent avec des armes, avec leur force. Et puis il y a la montagne où les hommes combattent par la prière. Et où est-ce que se gagne le combat ? Dans la vallée ou sur la montagne ? C'est où que ça se gagne ? Allô ? Les enfants, sur la montagne, oui, 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 c'est-à-dire dans la prière. Pas par mes moyens, pas par ce que je mets en place, pas par les gens à qui je téléphone, un tel qui s'occupe de mon affaire, dans la prière. Amen. Et la deuxième image que je vois ici dans ce texte, c'est que Dieu nous appelle à l'unité, à nous soutenir les uns les autres. À soutenir les responsables de l'Église, mais pas seulement, nous soutenir les uns les autres. Personne n'est infaillible. Moïse, à un moment donné, il a le bras qui fatigue. Et vous savez, quand quelqu'un fatigue, on peut avoir plusieurs réactions. Hein. Oh ben, pff, si c'était vraiment un homme de Dieu, Dieu lui donnerait la force, hein. Son bras ne tomberait pas hein, s'il avait la foi. Hein. On n'est pas comme ça des fois dans nos raisonnements ? Au lieu de venir et de tenir le bras et de soutenir son frère, sa sœur, son ami. Non, vous ne croyez pas que c'est une belle image ? C'est à ça que le Seigneur veut nous encourager. Être solidaires les uns des autres. Pas seulement avec la banque alimentaire ou dans l'amitié qu'on se porte, mais plus que ça, un lien dans la prière. Quelque chose qui crée un ciment entre nous. Quelque chose que même un tremblement de terre pourra pas ébranler. Amen. On a malheureusement cette actualité qui est dramatique. Mais toutes les maisons qui sont bien solides, elles ne se sont pas écroulées. Et l'Église peut s'écrouler s'il n'y a pas ce fondement de la prière, s'il n'y a pas ce lien qui nous unit. Mais s'il y a ce fondement et ce lien, la tempête peut souffler, ça peut trembler, ça peut faire toutes sortes de choses. Le Seigneur, il va garder son Église. Amen. Amen. J'aimerais qu'on termine ce moment en se regroupant. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes venu avec votre famille, si vous êtes seul. Si vous êtes seul, Ben, joignez-vous à une famille, mais je vais inviter les familles. On va se lever. Vous allez vous regrouper par famille. J'aimerais que vous regrouperiez par famille. Les parents avec vos enfants, regroupez-vous, s'il vous plaît. Si un membre de la famille n'est pas là, ce n'est pas grave. On pense à lui. Ceux qui sont seuls, allez vous joindre à une famille. Vous vous tenez par la main, les familles. Faites un cercle, vous tenez par la main, mettez-vous où vous pouvez. La maman avec son enfant, les parents avec les enfants. Vous unissez et j'aimerais qu'on ait un temps de prière. Avant de prier, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'écouter. Les enfants, rappelez-vous toujours de ça. Vous m'écoutez, les enfants ? Vos parents, ils ont une responsabilité très importante, c'est de vous éduquer et de faire que quand vous serez grand, vous soyez capable de bien vivre votre vie. Dans cette éducation, puisqu'ils sont chrétiens, ils veulent que vous connaissiez Jésus. Et ils prient pour vous, mais vous, vous pouvez vous opposer à eux. Mais ce qu'on voit dans l'exemple d'Aaron et Hur, ils ne se sont pas opposés à Moïse, ils l'ont soutenu. Donc soutenez vos parents. Soyez avec eux. Ne soyez pas contre eux comme les enfants qui ne connaissent pas Dieu, qui se rebellent contre leurs parents. Soyez en soutien à vos parents. Amen. C'est cette image que je veux vraiment vous donner. Soutenez vos parents, les enfants. Vous allez grandir à l'adolescence et vos copains vont vous expliquer que les parents, ils n'ont rien compris, c'est des vieux, machin. Peut-être, vos parents ne sont pas parfaits, il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas compris, c'est sûr, mais soutenez-les. Aimez-les. Amen. Comme l'a dit Valérie, dites-leur « Je t'aime comme jusqu'à l'infini ». Même si vous êtes ado, vous pouvez encore le dire. Amen. C'est valable aussi pour nous. Hein. Moi, je veux dire ça à ma maman aussi. Hein? Même si je suis grand-père, j'ai aussi une maman. Hein? On prie ensemble ? Je vous invite à prier les uns pour les autres. On prie et on demande au Seigneur vraiment de protéger, de garder les familles dans l'Église. Je prie vraiment qu'il y ait une protection particulière. La Bible dit que les anges campent autour de ceux qui le craignent. Et nous déclarons ensemble que Dieu, pendant cette année, va protéger les familles. Amen. Il va les unir, il va les souder. Il va faire que les familles ne se déchirent pas, mais qu'au contraire, elles puissent grandir dans l'unité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Priez mes frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.